VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En RDC, calme précaire à Kananga, dans le Kasaï central, après les échanges de tirs ce mardi entre les forces de sécurité et des supporters de Kamuina Nsapu, chef coutumier tué lors d'un accrochage en août 2016 avec les troupes gouvernementales, après avoir contesté l'autorité de Kinshasa. Les troubles liés à ce mouvement de contestation, qui a commencé dans le Kasaï oriental, se sont étendus depuis aux provinces voisines du Kasaï, Kasaï central et Lomami. Toujours concernant cette région, deux experts de l'ONU, de nationalité américaine et l'autre suédoise, ainsi que leurs quatre accompagnateurs congolais, ont été enlevés au Kasaï central. Les faits se sont produits à 120 km de la ville de Kananga. La MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, confirme cette information. Pour sa part, le gouvernement congolais annonce l'ouverture d'une enquête. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Selon les informations recueillies sur place et confirmées par la MONUSCO et le gouvernement, ces deux experts de l'ONU, accompagnés de quatre citoyens congolais, ont été kidnappés à 120 km de la ville de Kananga, sur l'axe Bokonde-Chimbulu, par un groupe armé non autrement identifié. D'après Charles Bambara, le responsable de l'information publique de la mission de l'ONU en RDC, ces deux employés des Nations Unies, de nationalité américaine et suédoise, travailler pour le groupe des experts en RDC chargé par le Conseil de sécurité d'enquêter sur les groupes armés, les violations des droits de l'homme et les possibles violations d'embargo sur les armes. Ils ont donc, dans le cadre de cette mission, loué trois motos à Kananga et pris la direction de Chimbulu avant de tomber sur cette embuscade. Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, souligne que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, présent à Kananga, travaille actuellement pour identifier ce groupe armé et obtenir leur libération. Car pour le moment, ni la MONUSCO, ni le gouvernement ne disposent des informations fiables sur le lieu où ils sont gardés, ainsi que sur l'identité et les exigences des kidnappeurs. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Crise burundaise, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit troublé lundi par des informations faisant état de torture et d'enlèvement au Burundi. Mais le Conseil a ignoré les appels d'organisations de défense des droits de l'homme, l'exhortant à imposer des sanctions. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Une déclaration à l'initiative de la France a été adoptée à l'unanimité après quelques ajustements avec la Russie, la Chine et l'Égypte qui s'opposent aux sanctions. Le Conseil de sécurité a appuyé la proposition du médiateur Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien, de tenir un sommet régional afin d'inciter le gouvernement burundais et l'opposition à ouvrir des négociations. Les 15 États membres ont exhorté le gouvernement de Bujumbura à signer un accord avec l'Union africaine pour le déploiement d'observateurs des droits de l'homme et d'experts militaires dont seuls une poignée ont été autorisés dans le pays. En juillet, le Conseil avait autorisé le déploiement d'au moins 228 policiers de l'ONU au Burundi pour surveiller la situation sécuritaire et les atteintes aux droits de l'homme, mais le gouvernement a bloqué le déploiement de cette force. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré très préoccupé par les déclarations du président Nkurunziza au pouvoir depuis 2005, suggérant qu'il pourrait demander un quatrième mandat. Une telle initiative risquerait d'intensifier la crise, avait estimé M. Guterres dans son rapport au Conseil de sécurité le mois dernier.
L'Afrique du Sud et le Nigeria ont convenu de la création d'une plateforme de dialogue pour contenir les tensions xénophobes en territoire sud-africain qui affectent notamment les ressortissants nigérians. Ce centre d'alerte devrait permettre aux deux pays de s'informer mutuellement des problèmes dans ce domaine et de prévenir d'éventuelles violences. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Marc Bakfou, président du Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud.
On salue la création de cette plateforme. Seulement, ce qu'on est en train de dire, c'est que on sait comment est-ce que le sujet des attaques sur les migrants ici, pratiquement depuis 2008, ce sujet a été traité par le gouvernement sud-africain. On se demande est-ce que ce serait avec une franchise que le gouvernement sud-africain va travailler sur cette plateforme, parce que on sait que le gouvernement sud-africain est en train d'entretenir un flou sur la question, parce que ou bien on se rend compte que notre peuple est xénophobe et donc pour ne pas perdre ses voix lors des élections prochaines de 2019, il faut entretenir la chose et faire croire que non, mais tu es aux côtés de la société civile qui se plaint des migrants et qui veulent même pas que les migrants vivent ici. En même temps, il faut protéger les intérêts bilatéraux qui existent entre les pays. On ne souhaiterait pas, parce que nous, on se dit que quand les attaques se passent, on perd des vies humaines. Et ce serait dommage qu'on fasse des jeux alors que les gens perdent leur vie.
Marc Bafou, président du Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud, il était joint à Johannesburg.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Niger, l'ancien Premier ministre nigérien Amar Amadou a été condamné à 1 an de prison ferme à Niamey dans l'affaire de trafic de bébés. Toujours en France, il n'a pas assisté à son procès. Au total, une 30aine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Plus de détails avec Abdourazak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
Les 3 juges de la cour d'appel ont requalifié les faits reprochés à Amar Amadou. Il a ainsi été condamné à 1 an de prison ferme pour recel d'enfants et non-supposition de bébés. Pour un de ses avocats, c'est une parodie de justice. Maître Mossi Boubacar.
Nous sommes retirés ce matin parce que nous étions convaincus qu'ils allaient rentrer dans une logique de condamnation. C'est pour cela qu'il est venu. La bonne preuve, c'est que vous avez vu la camionnette qui était là, garée, stationnée pour prendre les gens. S'il n'y avait pas une décision qui était déjà prise à l'avance, comment pouvait-on savoir que ces gens-là seraient arrêtés.
La cour n'a cependant pas émis de mandat dépôt pour Amar Amadou qui se trouve en France et qui avait déjà passé 4 mois enfermé dans le cadre de cette affaire. Les nombreux militants de son parti politique qui étaient à la cour d'appel de Niamey ont scandé des slogans comme « Abat la justice ». Abdoulaye Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Bénin, débat autour de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Pour beaucoup, si l'actuel président a pris sur lui la responsabilité de faire un seul mandat, il ne doit pas l'imposer à ses successeurs. De Cotonou, notre correspondante Ginevra Fleur à Dandé.
Faut-il réviser ou pas la loi fondamentale du Bénin? Le débat a dépassé cette étape et se retrouve aujourd'hui à remettre en cause certaines subtilités contenues dans les propositions faites par la commission présidée par le ministre de la Justice. Certaines personnes avertis disent tout haut que le gouvernement serait en train de tout faire pour contourner une consultation référendaire. Elles voient d'un mauvais œil la possibilité que le projet de révision de la loi fondamentale du Bénin atterrisse sur la table des députés sans passer par le filtre d'un débat public. En clair, beaucoup craignent que les députés pour la majorité acquis à la cause de Patrice Talon aident ce dernier à contourner les contraintes légales d'un recours au référendum. Pour Bob Batio, consultant sociologue, la révision de la Constitution ne saurait passer sans un quelconque débat.
Pour une révision qui se veut juste et objective, la nécessité pour l'élite populaire et les forces vives, à défaut de l'ensemble de la population, de s'en imprégner et d'en discuter afin de retenir les amendement substantiel. Un chef d'État ne peut donc imposer, en complicité avec la majorité gouvernante, sa vision à l'ensemble du pays.
Pour Epiphane Dalokono, au-delà de la révision de la loi fondamentale, il faut penser à inculquer aux Béninois le respect des tests.
C'est dans l'application de nos tests que nous pourrions donc analyser si oui ou non les populations pour lesquelles nous avions retenu ces tests-là, si ces populations se sentent épanouies, se sentent développées.
L'un des points qui dérange certains dans le projet de révision de la loi fondamentale, c'est le mandat unique. Pour l'hôte Rouenou du Parti des valeurs républicaines, les Béninois doivent manifester pour bouter hors de ce projet le mandat unique perçu comme le bouclier qui permettra au chef d'État de gouverner sans foi ni état d'âme.
Le mandat unique est à rejeter, à balayer hors de la République. La seule occasion pour les citoyens qui constituent des électeurs pour se venger, c'est le prochain mandat d'un chef d'État en exercice. Dès lors qu'on parle de mandat unique, le peuple n'a plus son pouvoir réel à exercer vis-à-vis d'un élu. Il faut laisser le peuple exercer son pouvoir réel.
Mais le ministre de la Justice persistait s'il ne s'agira pas de remettre en cause tout ce qui existait, mais de rendre plus forte et républicaine certaines dispositions pour un développement harmonieux du Bénin. Joseph Diogbenou.
Nous ne sommes pas dans la réécriture de la Constitution. Nous ne sommes pas dans la fondation d'une nouvelle République. Et donc, nous n'avons pas besoin de considérer les états généraux de la République.
La Constitution, si elle est révisée, elle pourrait contenir les réformes telles que la création d'une Cour des comptes, le rééquilibrage des pouvoirs entre les institutions, la réforme du système partisan et bien sûr la réforme du mandat unique, objet de toutes les récriminations actuellement. Une grande marche est d'ailleurs prévue pour le mercredi prochain à Porto-Novo, la capitale, pour dire non, selon les organisateurs, à une révision taillée sur mesure de la loi fondamentale. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.